Nous sommes presque arrivés à la fin. Courage, dernière ligne droite cette semaine où nous allons avoir le couronnement un peu de toute notre préparation et nos exercices préparatoires des 33 jours. Nous abordons donc depuis aujourd'hui cette semaine pour mieux connaître Jésus-Christ. La semaine passée nous a donné d'entrer plus avant dans le mystère de la Vierge Marie. Nous l'avons souvent répété, ce n'est que pour mieux connaître Jésus-Christ, fin unique de toute notre dévotion. Nous arrivons donc à la dernière semaine de notre préparation qui culmine avec une connaissance plus approfondie de Jésus. Nous essaierons de le suivre dans les mystères de sa personne et de sa mission. Le Verbe éternel fait chair a pris la croix sur lui pour nous donner de partager un jour le triomphe de sa résurrection. Le Père de Montfort est très attaché, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, au mystère de l'incarnation, dont il parle abondamment dans son traité de l'amour de la sagesse éternelle. Mystère dans lequel il trouve l'expression merveilleuse de la tendresse de Dieu pour les hommes. La fête principale des consacrés à Jésus par les mains de Marie est la fête de l'Annonciation. Et il recommande, Père de Montfort, de la célébrer avec ferveur, avec foi. Et vous le comprenez d'autant mieux maintenant, après cette semaine passée à lire les textes du Saint sur la Vierge Marie. Mais l'autre pôle fondamental de sa spiritualité, dont nous avons déjà abondamment parlé, l'autre pôle, donc, c'est celui du mystère de la croix. Nous lirons cette semaine un écrit moins connu, mais très important, la lettre circulaire aux amis de la croix. Cette semaine est dense et connaît une montée en puissance pour parvenir à la consécration. Il faudra donc un peu plus de temps chaque jour, pas tellement plus, puis ça dépend des jours. Il y a le sixième jour, soyez attentifs au sixième jour, parce qu'on lit tout la lettre circulaire aux amis de la croix, alors c'est un peu long. Voilà, mais c'est inégal selon les jours. Donc il faudra plus de temps, surtout évidemment pour ceux qui font la version longue. Cet investissement en vaut la peine car il nous invite puissamment à considérer Jésus comme notre tout et notre absolu. Ce qui, vous l'avouerez avec moi, vaut bien qu'on lui consacre un peu plus de notre précieux temps. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toute chose. Nous ne travaillons, comme dit l'apôtre, que pour rendre tout homme parfait en Jésus-Christ, parce que c'est en lui seul qu'habite toute la plénitude de la divinité et toutes les autres plénitudes de grâce, de vertu et de perfection. Parce que c'est en lui seul que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle, parce qu'il est notre unique maître qui doit nous enseigner, notre unique Seigneur de qui nous devons dépendre, notre unique chef auquel nous devons être unis, notre unique modèle auquel nous devons nous conformer, notre unique pasteur qui doit nous nourrir, notre unique voie qui doit nous conduire, notre unique vérité que nous devons croire, notre unique vie qui doit nous vivifier et notre unique tout en toute chose qui doit nous suffire. Il n'a point été donné d'autre nom sous le ciel que le nom de Jésus par lequel nous devions être sauvés. Dieu ne nous a point mis d'autre fondement de notre salut, de notre perfection et de notre gloire que Jésus-Christ. Tout édifice, ajoute le Père de Montfort, qui n'est pas posé sur cette pierre ferme, est fondé sur le sable mouvant et tombera infailliblement tôt ou tard. Tout fidèle, qui n'est pas uni à lui comme une branche au cep de la vigne, tombera, séchera et ne sera propre qu'à être jeté au feu. Si nous sommes en Jésus-Christ et Jésus-Christ en nous, nous n'avons point de damnation à craindre. Ni les anges des cieux, ni les hommes de la terre, ni les démons des enfers, ni aucune créature ne nous peut nuire parce qu'elle ne nous peut séparer de la charité de Dieu qui est en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ, nous pouvons toute chose rendre tout honneur et toute gloire au Père en l'unité du Saint-Esprit, vous avez reconnu la doxologie, nous rendre parfaits et être à notre prochain une bonne odeur de vie éternelle. Approfondissons donc un peu. Premièrement, La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous le savez, c'est une parole du Seigneur lui-même dans Saint Jean chapitre 17. C'est notre première partie. Dans cette première partie, premièrement, connaître Jésus. Le pape Benoît XVI, dans son admirable discours au Collège des Bernardins du 12 septembre 2008, ça vous dit peut-être quelque chose, a démontré magistralement comment toute recherche de la raison humaine doit avoir pour fondement et pour fin le Logos, le Verbe éternel venu parmi nous. Tout ce qui est vrai participe de la raison divine éternelle manifestée en Jésus, sagesse éternelle incarnée. Chercher honnêtement la vérité, c'est chercher le Christ. Chercher le Christ, c'est donner raison de toute chose. Foi et raison se rejoignent dans une fécondité qui illumine nos intelligences et embrase nos cœurs. Et je cite Benoît XVI. La nouveauté de l'annonce chrétienne, disait-il, c'est la possibilité de dire maintenant à tous les peuples, il s'est montré, lui, personnellement. Et à présent, le chemin qui mène à lui est ouvert. La nouveauté de l'annonce chrétienne ne réside pas dans une pensée, ça c'est important, mais dans un fait. Dieu s'est révélé. Ce n'est pas un fait nu, mais un fait qui lui-même est Logos, présence de la raison éternelle dans notre chair. Verbum caro factum est, le Verbe s'est fait chair. Il en est vraiment ainsi en réalité à présent. Le Logos, le Verbe est là. Le Logos est présent au milieu de nous. C'est un fait rationnel. Cependant, ajoute le Saint-Père, l'humilité de la raison sera toujours nécessaire pour pouvoir l'accueillir. Il faut l'humilité de l'homme pour répondre à l'humilité de Dieu. C'est beau. Saint Louis-Marie l'exprime à sa façon. Cette connaissance de Jésus, sagesse éternelle, n'est pas seulement une connaissance de l'intelligence. Elle est surtout une connaissance de la foi et du cœur. Au sens où nous connaissons vraiment un ami, à la mesure de l'écoute, de l'attention et de l'affection que nous lui portons. Et nous en faisons chacun l'expérience. On peut être très cultivé sans savoir l'essentiel. En revanche, connaître vraiment Jésus ouvre toujours l'esprit pour le reconnaître dans toutes ses œuvres de création et de rédemption. L'émerveillement est un signe d'ouverture à la grâce. Oh oui, ça c'est important. Savoir s'émerveiller toujours de la beauté de Dieu, de la bonté de Dieu, de ce que Dieu a fait dans la création, de ce que Dieu a fait dans sa rédemption, de ce que Dieu fait dans mon cœur, à chaque instant de ma vie, de tous les dons que le Seigneur m'a donnés. Si nous savions seulement nous émerveiller un peu plus. Plus difficile pour les Français qui sont des éternels râleurs, mais ça voilà. Alors, il faut un peu changer ça. Père de Montfort dit, cette connaissance de la sagesse éternelle n'est pas seulement la plus noble et la plus douce, mais encore la plus utile et la plus nécessaire. Parce que la vie éternelle consiste à connaître Dieu et son Fils Jésus-Christ. Après la citation du départ. Vous connaître, s'écrit le sage, parlant à la sagesse, est la parfaite justice, et comprendre votre équité et votre puissance est la racine de l'immortalité. Voulons-nous en vérité avoir la vie éternelle ? Ayons donc la connaissance de la sagesse éternelle. Voulons-nous avoir la perfection de la sainteté en ce monde ? Connaissons la sagesse. Voulons-nous avoir en notre cœur la racine de l'immortalité ? Ayons en notre esprit la connaissance de la sagesse. Et cette phrase très belle du Père de Montfort, pour savoir par cœur, savoir Jésus-Christ, la sagesse incarnée, c'est assez savoir. Savoir tout et ne pas le savoir, c'est ne rien savoir. Deuxièmement, il ne faut pas seulement connaître Jésus, mais il faut aussi l'aimer, aimer Jésus. La connaissance de Jésus renvoie à l'amour et réciproquement. On ne connaît bien que ce que l'on aime et l'on n'aime bien que ce que l'on connaît. La connaissance du Christ est une connaissance amoureuse et nous fait entrer dans son intimité. Père de Montfort, peut-on aimer ce qu'on ne connaît pas ? Peut-on aimer ardemment ce qu'on ne connaît qu'imparfaitement ? Pourquoi est-ce qu'on aime si peu la sagesse éternelle et incarnée, l'adorable Jésus, sinon parce qu'on ne la connaît pas, ou très peu ? Il n'y a presque personne qui étudie comme il faut, avec l'apôtre, cette science suréminente de Jésus, qui est cependant la plus noble, la plus douce, la plus utile et la plus nécessaire de toutes les sciences et connaissances du ciel et de la terre. Saint Augustin l'exprimait autrement à propos de Dieu en général, ce qui revient finalement au même. Voilà ce qu'il disait dans les Confessions. « Seigneur Dieu de vérité, vous plaît-il celui qui sait tout cela ? Malheureux qui le sait et vous ignore. Heureux qui l'ignore et vous connaît. Et celui qui a cette double science n'est heureux que par vous seul, si, vous connaissant, il vous glorifie comme Dieu, s'il vous rend hommage, s'il ne se dissipe pas dans la vanité de ses pensées. » Vous savez de quoi y parler, saint Augustin. « Mieux vaut celui qui sait posséder un arbre et vous rendre grâce de ses fruits, sans savoir la hauteur de sa tige et l'étendue de ses branches, que celui qui sait la mesure des rameaux et le compte des feuilles, sans en jouir, sans en connaître, sans en aimer le Créateur. Ainsi, le fidèle a ce monde pour trésor. Tout ce à quoi il renonce, il le retrouve en vous, ô souverain de l'univers. » Tout consiste donc à faire entrer résolument le Christ dans notre vie, afin qu'il y règne en maître et l'éclaire de sa sagesse. La connaissance amoureuse de Jésus est une réponse à son invitation. « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. » Est-ce qu'on se rend compte de ce que Dieu fait, notre Seigneur Jésus, qui nous invite à devenir ses amis ? Ça, mes chers amis, c'est une véritable, dans l'histoire de l'humanité, c'est une véritable révolution spirituelle, si je puis dire. Dieu nous invite à partager son amitié. Vous connaissez d'autres religions comme ça, vous ? Non. Dieu veut faire de nous ses amis. Extraordinaire. Dieu veut nous faire entrer dans son intimité. Dieu veut nous découvrir son cœur. Au fond, la consécration du Père de Montfort, en renouvelant les promesses de notre baptême, nous permet de grandir dans cette amitié avec Jésus. Combien de chrétiens ne vivent pas de cette amitié avec Jésus ? Ont une image d'un Dieu lointain, soit de l'Ancien Testament, soit un Dieu qui ressemble peut-être à celui des musulmans, d'un Dieu totalement étranger, en dehors de notre sphère. Ce n'est pas le Dieu des chrétiens. Dieu s'est fait proche de nous. Pour que nous puissions le toucher, Dieu s'est invité chez nous. Alors, il n'attend en fait que notre réponse. Dieu est un mendiant d'amour. Il vient mendier à la porte de notre cœur, notre amour. Rien que ça, ça devrait nous bouleverser complètement. Ainsi le disait Benoît XVI pour l'inauguration de son pontificat. « Celui qui fait entrer le Christ ne perd rien, rien, absolument rien de ce qui rend la vie libre, belle et grande. Non, dans cette amitié seulement s'ouvrent tout grand les portes de la vie. Dans cette amitié seulement se dévoilent réellement les grandes potentialités de la condition humaine. Dans cette amitié seulement, nous faisons l'expérience de ce qui est beau et de ce qui libère. Ainsi, aujourd'hui, je voudrais avec une grande force et une grande conviction à partir d'une longue expérience de vie personnelle, vous dire à vous les jeunes et moins jeunes, n'ayez pas peur du Christ, il n'enlève rien et il donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit le centuple. Fort ces paroles du Saint-Père Benoît XVI au début de son pontificat. Deuxième partie, donc après le fait qu'il faille connaître et aimer Jésus, deuxième partie, découvrons-le un peu plus avant. Et je l'ai intitulé cette partie « Jésus, doux et humble de cœur ». Dans l'amour de la sagesse éternelle, Saint Louis-Marie consacre tout un chapitre sur la douceur et, selon son expression, la beauté charmante de Jésus. Si Jésus nous attire tant, c'est qu'il a pris les traits de l'humilité et de la simplicité. D'ailleurs, par parenthèse, c'est ce qui attire aussi beaucoup de musulmans souvent qui se convertissent à la foi chrétienne. C'est la figure de Jésus, toujours, parfois à travers la Sainte Vierge, mais la figure de Jésus. Du nourrisson de la crèche à l'homme crucifié, il n'est que douceur, pour que personne ne soit rebuté, que tous puissent l'approcher. Comme la sagesse ne s'est faite homme que pour attirer les cœurs des hommes à son amitié et à son imitation, elle a pris plaisir à se parer de toutes les amabilités, de toutes les douceurs humaines les plus charmantes et les plus sensibles, sans aucun défaut ni aucune laideur. Premièrement, Jésus est doux, dit Père de Montfort, en son essence même. À l'image d'un Dieu terrible et intraitable des jansénistes, Grignon préfère l'image de la bonté divine pleinement dévoilée en Jésus-Christ. C'est pas rien à son époque. Cette bonté n'est pas seulement une manière d'être extérieure pour attirer les hommes à lui, elle est constitutive de son essence même, car l'échange d'amour trinitaire n'est que douceur, paix et joie. Il ne peut donc que rayonner cette douceur intrinsèque vers les hommes, puisque c'est son visage véritable. À cette douceur divine répond la douceur humaine de Jésus et celle de la Vierge Marie, sa mère, en parfaite harmonie avec lui. Saint Louis-Marie, si nous la considérons dans ses principes, la sagesse éternelle, hein, toujours, par de Jésus au féminin, parce que c'est toujours la sagesse éternelle, vous l'aviez compris. Si nous la considérons dans ses principes, elle n'est que bonté et que douceur. C'est un don de l'amour du Père éternel et un effet de celui du Saint-Esprit. Elle est donnée par l'amour et formée par l'amour. Elle est donc toute d'amour, ou plutôt l'amour même du Père et du Saint-Esprit. Elle est née de la plus douce, la plus tendre et la plus belle de toutes les mères, la divine Marie. Expliquez-moi la douceur de Jésus. Expliquez-moi auparavant la douceur de Marie, sa mère, à qui il ressemble dans la douceur du tempérament. Jésus est l'enfant de Marie et par conséquent, il n'y a en lui ni fierté, ni rigueur, ni laideur et encore infiniment moins que dans sa mère. Puisqu'il est sagesse éternelle, la douceur et la beauté même. Deuxièmement, Jésus est doux aussi envers les pécheurs. Cette douceur ne cesse pas dans la rencontre des pécheurs, d'autant moins qu'il va jusqu'à donner sa vie pour eux en mourant sur la croix. Le Christ est mort pour nous. Et s'exprime cette douceur de Jésus dans la compassion infinie qu'il a pour chaque pécheur, y compris pour ses ennemis et même pour celui qu'il a livré, ce que l'on peut constater dans les mots employés par l'Évangile. Vous savez, quand Judas livre Jésus, dit Jésus l'embrassa. Et en fait, le mot grec dit l'embrassa, on devrait traduire littéralement l'embrassa tendrement. Il y a un autre mot pour dire embrasser, mais c'est une insistance. Oui, jusqu'au bout, Jésus essaye de fléchir le cœur de Judas. Cette douceur, il continue de l'avoir pour chacun d'entre nous, ce qui nous devrait nous confondre de reconnaissance et d'amour. Au rugueux examen de conscience des premiers jours de notre préparation, répond le regard de douceur et de tendresse de Jésus, que Jésus, pardon, pose sur chacun d'entre nous, et même sur vous qui écoutez ça en replay. Sa miséricorde est plus forte que nos faiblesses. Sa tendresse est un baume délicieux qui guérit les blessures de notre âme. Mais qui pourra expliquer la douceur de Jésus envers les pauvres pécheurs, dit Saint Louis-Marie? Avec quelle douceur traitait-il Madeleine la pécheresse? Avec quelle douce condescendance convertit-il la Samaritaine? Avec quelle miséricorde pardonnait-il à la femme adultère? Avec quelle charité allait-il manger chez les pécheurs publics pour les gagner? Ses ennemis ne prirent-ils pas occasion de cette grande douceur de le persécuter en disant qu'il faisait par sa douceur transgresser la loi de Moïse et en l'appelant, comme par injure, l'ami des pécheurs et des publicains? Avec quelle bonté et humilité tâcha-t-il de gagner le cœur de Judas qui le voulait trahir en lui lavant les pieds et en l'appelant son ami? Enfin, avec quelle charité demanda-t-il pardon à Dieu son Père pour ses bourreaux en les excusant à cause de leur ignorance? Jésus est intrinsèquement doux, il est doux avec les pécheurs, mais ne croyons pas qu'il a cessé d'être doux, il est doux aussi dans sa gloire, c'est ce que dit le Père de Montfort, c'est notre troisième nom. Cette douceur du Christ, oui, demeure dans sa gloire et demeurera dans son retour en gloire. L'expression peut en être parfois terrible, dans le sens, comme dans l'Évangile d'aujourd'hui par exemple, dans le sens où toute justice sera accomplie, où rien ne demeurera caché, où tous les péchés paraîtront pour qu'il en soit rendu compte. Dans le jugement final, Jésus ne se départira pas de sa douceur. On a souvent une vision plutôt d'autorité, de force. Non, Jésus ne se départira pas de sa douceur, mais elle paraîtra encore plus terrible à ceux qui ne l'ont pas accueillie et se retrouveront jugés par leurs propres fautes et péchés, écrasés dans leur orgueil par celui qui est toute humilité et toute douceur. En attendant, en chacune de ses apparitions, Jésus se montre toujours tendre et miséricordieux. Et qu'on ne s'imagine pas que Jésus, dit Saint Louis-Marie, pour être maintenant triomphant et glorieux, en soit moins doux et condescendant. Au contraire, sa gloire perfectionne en quelque manière sa douceur. Il n'a pas tant de désir de paraître que de pardonner, d'étaler les richesses de sa gloire que celles de ses miséricordes. Qu'on lise les histoires, on verra que quand cette sagesse incarnée et glorieuse a apparu à ses amis, elle leur a apparu non d'une manière tonnante et foudroyante, mais d'une manière douce et bénigne. Elle n'a pas pris la majesté d'une souveraine et du dieu des armées, mais la tendresse d'un époux et la douceur d'un ami. Et c'est quelquefois fait voir dans l'Eucharistie, mais je ne me souviens pas avoir lu qu'elle y soit apparue autrement que sous la forme d'un doux et bel enfant. Jésus, doux et humble de cœur, bien rendez notre cœur semblable au vôtre. Troisième partie, Jésus et la croix. Et d'abord, premièrement, Jésus est glorifié par la croix, ce qui peut paraître étrange. Dès les débuts de son ministère à Poitiers, le père de Montfort institue une congrégation dans l'hôpital général dont il est l'aumônier. Il appelle volontairement des femmes pauvres et simples, même infirmes, d'ailleurs la supérieure était aveugle, pour se consacrer et prier, car il a la conviction que Dieu se sert de ce que le monde trouve d'insensé pour confondre les sages et les puissants infatués. Il leur donne une règle de vie et met devant leurs yeux la sagesse de la croix. Pour les réunions de sa communauté, il obtint des administrateurs de l'hôpital une salle qu'il voulut appeler la sagesse et au milieu de laquelle il dressa une croix. La croix, le grand symbole dont plus tard il devait donner la signification dans cette formule fameuse « La sagesse est la croix et la croix est la sagesse ». Il ne fallait qu'aller dans le sens de ce qu'il lit dans l'Évangile. Jésus est venu pour le salut. Il sait que ce salut passe par la croix. Il désire cette croix, non pour elle-même, mais pour l'amour des pauvres pécheurs. Paradoxalement, la croix du Seigneur, c'est sa glorification. Comme il le dit très bien dans l'Évangile selon saint Jean, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » C'est en Jean 12, 23. Et c'est très clair que Jésus désigne sa passion. La suite du texte montre clairement qu'il parle justement de sa mort à venir sur la croix. Pendant toute sa vie, la sagesse l'a cherchée, cette croix, avec empressement. Si elle courait comme un cerf altéré de bourgade en bourgade et de ville en ville, si elle marchait à pas de géant vers le calvaire, si elle parlait si souvent de ses souffrances et de sa mort à ses apôtres et à ses disciples, et même à ses prophètes dans sa transfiguration, si elle s'écriait si souvent « J'ai désiré, mais d'un désir infini », toutes ses courses, tous ses empressements, toutes ses recherches, tous ses désirs tendaient à la croix et elle regardait comme le comble de sa gloire et de sa plus haute fortune de mourir en ses embrassements. Et deuxièmement, l'union intime de Jésus et de la croix. On pourrait penser que la croix de Jésus ne vaut que pour sa vie terrestre parmi nous, et ce cruel moment de la mort qu'il a vécu dans sa passion. Mais il n'en est rien. La croix demeure pour toujours l'instrument de son triomphe sur le péché, la souffrance, la mort et le diable. Elle est le signe qui le précède toujours et l'annonce. Vous savez, le signe qui doit être donné à la fin des temps, les pères de l'Église l'interprètent presque toujours comme le signe de la croix qui se dessinera dans le ciel. Il y a une célèbre apparition, pour son anniversaire bientôt, près de Poitiers, Mignot aux Anses, une grande croix dans le XIXe siècle qui a été vue par des centaines de personnes. Bon, ça c'est une petite histoire, mais voilà, c'est intéressant. Et en tout cas, c'est ce signe qui est attendu donc à la fin des temps. Parce qu'elle est le signe qui lui est intimement uni. Montfort remarque astucieusement que seule la croix reçoit, parmi les créatures, un culte d'adoration au sens strict, c'est-à-dire ce qu'on appelle un culte de latrie, qui est dû à Dieu seul. Elle ne le peut que dans la mesure où c'est à Jésus lui-même qu'est rendu ce culte. Comme on peut, par exemple, adorer le corps humain de Jésus intimement uni à sa divinité. Il imagine la fin des temps, le triomphe de la croix, qui précède le triomphe du Rédempteur. Il faut d'ailleurs noter que les premières représentations de la croix l'ont montré sans le Christ et jamais, vous savez, des pierres précieuses, avant que n'apparaissent des médaillons du visage du Seigneur et plus tard Jésus habillé, vivant et triomphant de la mort sur la croix. Voilà ce que dit le Père de Montfort dans l'amour de la sagesse éternelle. Ne croyez pas qu'après sa mort, pour mieux triompher, elle se soit la sagesse détachée de la croix, qu'elle ait rejeté la croix, tant s'en faut. Elle s'est tellement unie et comme incorporée avec la croix qu'il n'y a ni ange, ni homme, ni créature au ciel et sur la terre qu'il en puisse séparer. Leur lien est indissoluble, leur alliance est éternelle. Jamais la croix sans Jésus, ni Jésus sans la croix. Elle a rendu par sa mort les ignominies de la croix si glorieuses, la pauvreté et nudité si riches, les douleurs si agréables, comme Montfort qu'il dit, ses rigueurs si charmantes, qu'il l'a comme toute divinisée et rendue adorable aux anges et aux hommes, et elle ordonne que tous ses sujets l'adorent avec lui. Elle ne veut pas que l'honneur de l'adoration, même relatif, soit rendu aux autres créatures, quelque relevée qu'elle soit, comme sa très sainte mère. Ce grand honneur n'est réservé ni dû qu'à sa chère croix. Elle fera cesser au grand jour du jugement tout celui des reliques des saints, même les plus respectables. Mais pour celle de sa croix, il commandera aux premiers séraphins et chérubins d'aller dans le monde ramasser les morceaux de la vraie croix qui, par sa toute-puissance amoureuse, seront si bien réunis qu'ils ne feront plus qu'une seule croix, et la croix même sur laquelle elle est morte. Elle fera porter cette croix en triomphe par les anges qui en chanteront des cantiques d'allégresse. Elle se fera précéder de cette croix, posée sur une nuée la plus éclatante qui ait jamais paru, et elle jugera le monde avec elle et par elle. Quelle sera pour lors la joie des amis de la croix lorsqu'ils la verront? Mais quel sera le désespoir de ses ennemis qui, ne pouvant supporter la vue de cette croix brillante et foudroyante, crieront aux montagnes de tomber sur eux et aux enfers de les engloutir. Troisièmement, dans cette troisième partie sur la croix, l'appel de Jésus pour avoir de vrais disciples. Si la croix demeure un tel signe de gloire pour Jésus, même dans son triomphe céleste, comment ses disciples, que nous sommes, pourraient-ils négliger, mépriser ou repousser la croix? L'appel du Seigneur, vous le connaissez, il est extrêmement clair. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Les paroles de l'Évangile qu'on aimerait bien un peu oublier, mais ça se rappelle à nous. Cette injonction du Seigneur ne peut pas être relativisée sous prétexte que la croix n'a pas bonne presse dans nos sociétés déchristianisées. Montfort développe cette phrase de Jésus en un long commentaire, et précisément, c'est cette fameuse lettre circulaire aux amis de la croix, toute la deuxième partie de la lettre est justement un commentaire de cette phrase du Seigneur. Et cet écrit, très vigoureux, nous pousse dans nos retranchements spirituels et nous provoque à une vraie conversion. Vous allez voir que c'est un écrit difficile, robuste. Au-delà du style de l'époque, vous connaissez déjà maintenant, il est une invitation à réfléchir à ce mystère central de la foi chrétienne, à la place du mystère de la croix dans nos vies. Ce faisant, nous irons sur les pas de saint Paul. La croix, soit on la subit en la rendant stérile, soit on l'embrasse volontairement pour lui donner toute sa fécondité. Dans tous les cas, on ne peut éviter sa rugosité. Mais dans son accueil volontaire seulement, on en tire des fruits de sainteté. Le problème, ce n'est pas de savoir si on va avoir la croix ou pas. On l'aura. À un moment, à un autre, on l'a déjà eu à des degrés divers. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Et je ne dis pas que c'est une réponse simple, hein. On est tous des apprentis à ce niveau-là. Mais justement, en regardant Jésus, en accueillant la manière dont Jésus a porté sa croix, et en lui demandant de nous donner la force de la porter à sa suite, alors peut-être ça peut changer quelque chose dans notre vie, sûrement, mais je vous lis un extrait de cette fameuse lettre circulaire que vous lirez entièrement. « Souvenez-vous, mes chers confrères, que notre bon Jésus vous regarde à présent et vous dit à chacun en particulier, « Voilà que quasi tout le monde m'abandonne dans le chemin royal de la croix. Les idolâtres aveugles se moquent de ma croix comme d'une folie. Les juifs obstinés s'en scandalisent comme d'un objet d'horreur. Les hérétiques la brisent et la battent comme une chose digne de mépris. Mais ce que je ne puis dire que les larmes aux yeux et le cœur percé de douleur, mes enfants que j'ai élevés dans mon sein et que j'ai instruits en mon école, mes membres que j'ai animés de mon esprit, m'ont abandonné et méprisé en devenant les ennemis de ma croix. » Une expression de saint Paul. Hein. « Voulez-vous point aussi, vous autres, m'abandonner en fuyant ma croix ? Comme les mondains qui sont en cela autant d'antéchrist, voulez-vous, afin de vous conformer à ce siècle présent, mépriser la pauvreté de ma croix pour courir après les richesses, éviter la douleur de ma croix pour rechercher les plaisirs, haïr les humiliations de ma croix pour ambitionner les honneurs? J'ai beaucoup d'amis en apparence qui protestent qu'ils m'aiment et qui dans le fond me haïssent parce qu'ils n'aiment pas ma croix. Beaucoup d'amis de ma table et très peu de ma croix. Donne à réfléchir. Eh bien, vous réfléchirez cette semaine un peu plus sur les questions. Parce que j'aborde la quatrième partie, il faut quand même que je vous parle avant de conclure ce cycle de conférences. Quelle consécration allons-nous faire? Vous en avez déjà maintenant une idée un peu plus précise, mais cherchons maintenant à pénétrer le sens profond de la consécration alors que nous en approchons. Tout ce que nous avons déjà dit, les exercices que nous avons parcourus déjà, nous ont aidés à mieux saisir le sens que lui donne le Père de Montfort. Il faut encore que nous précisions quelques points. Premièrement, d'abord, l'objet de la consécration. Reprenons les termes de la consécration, tout simplement, et l'explication qu'en donne Saint Louis-Marie lui-même. Il dit « Cette dévotion consiste donc à se donner tout entier à la très sainte Vierge pour être tout entier à Jésus-Christ par elle. » Jusque-là, vous le saviez. Il faut lui donner, premièrement, notre corps avec tous ses sens et ses membres. Alors il faut que nous nous souvenions que depuis notre baptême, là c'est moi qui ajoute, hein, nous sommes les temples vivants de l'Esprit Saint et que nos corps sont faits pour rendre gloire à Dieu et non pour le péché. Pensons à le faire également quand survient la maladie ou les limites dues au vieillissement. Offrir notre corps aussi au Seigneur, ce corps qui m'échappe, qui devient plus vieux, plus malade, moins souple, que sais-je, souffrant. Voilà. Deuxièmement, il faut offrir notre âme avec toutes ses puissances. Notre intelligence donc doit embrasser l'humilité pour se mettre au service de la vérité. Vous voyez, et rejoindre la Vierge Marie dans cette humilité. Notre volonté demande à être affermie pour nous incliner avec force vers le bien. Et notre mémoire doit conserver ce qui est beau et être libérée de ce qui la souille. C'est pourquoi aussi, vous comprenez que cette dévotion au Père de Montfort et cette consécration suppose un entretien, si je puis dire, de l'esprit de cette consécration. Donc, ça suppose de continuer à lire, de servir de ça. Voilà, de le parcourir, de l'approfondir. Si vous avez fait la version brève, sur l'année, là, tranquillement, vous lisez les textes, vous n'avez pas eu le temps de lire, etc. Vous voyez, ça permet d'entretenir cet état d'esprit de communion avec la Vierge Marie. Bon, troisièmement, il nous faut lui donner aussi nos biens extérieurs, qu'on appelle de fortune, présent et à venir. Ce sont bien sûr tous nos biens matériels qui doivent être au service de notre marche vers la sainteté. Nous pouvons nous considérer, par exemple, comme des gérants de ces biens et non pas des propriétaires, afin de ne pas nous y attacher démesurément. Vous voyez, qu'on ait des choses, qu'on ait des biens, c'est normal. Puis il faut prévoir aussi, puis surtout si on a des enfants, des petits-enfants, que sais-je, eh bien c'est important. Mais en même temps, considérons-nous plutôt comme des gérants, plutôt que comme des propriétaires, même si de fait ils sont à nous. Mais vous voyez, ça nous détache en nous disant, de toute façon on ne les emmènera pas là-haut. Hein. Donc gérons les biens. Pour l'amour de Dieu, pour le bien des autres, pour par charité, pour aussi en faire profiter d'abord nos plus proches et puis peut-être plus largement. Il faut aussi apprendre à se satisfaire de ce que nous avons quand nous ne sommes pas dans la nécessité. Vous voyez ? Simplement aussi se satisfaire. C'est vrai que ça va un peu à l'encontre de notre société de consommation. On veut toujours plus, il faut toujours avoir plus. Quand on a 4 frigos, 5 voitures et 10 ordinateurs, voilà, après on en aura 11 et 6 et 5. Voilà. Mais vous voyez, c'est pas ça qui nous satisfait, on le sait bien. Mais justement, apprenons à nous satisfaire des choses. Quatrièmement, il faut lui donner aussi, nos biens intérieurs et spirituels, qui sont nos mérites, nos vertus et nos bonnes œuvres, passées, présentes et futures. Même ce que nous comptons de mérites personnels, eh bien, nous désirons, dans cette consécration, nous en dépouiller. Pourquoi ? Pour en laisser la gérance à la Vierge Marie. Souvenons-nous que le Seigneur demande à Saint François d'Assise, par exemple, de se déposséder même de l'ordre pourtant qu'il lui avait demandé de fonder. Oui, François a été mis un peu à l'écart par les frères qui sont venus, qui étaient plus brillants et puis qui voulaient faire des statues pour l'ordre, bien comme il faut, etc. Et ça, c'était une croix pour François. Mais le Seigneur lui demande aussi de se détacher, même pourtant d'une chose bonne que le Seigneur lui a demandé de fonder. Et c'est ainsi que même nos mérites, même tout ce que nous faisons de bien, donnons-le tout au Seigneur, qu'il gère comme il voudra. Donnons-le à la Sainte Vierge. Elle saura en faire bon usage pour le meilleur. Parce que nous, on peut tout gâter, même par notre orgueil, même nos mérites, malheureusement. En deux mots, continue Père de Montfort, tout ce que nous avons dans l'ordre de la nature et dans l'ordre de la grâce, et tout ce que nous pourrons avoir à l'avenir dans l'ordre de la nature, de la grâce ou de la gloire, et cela sans aucune réserve, pas même d'un denier, d'un cheveu et de la moindre bonne action, et cela pour toute l'éternité, et cela sans prétendre ni espérer aucune autre récompense de son offrande et de son service que l'honneur d'appartenir à Jésus-Christ par elle, quand cette aimable maîtresse ne serait pas, comme elle est toujours, la plus libérale et la plus reconnaissante des créatures. Oui, la seule récompense que nous attendons, mes amis, ce n'est pas des dons, ce n'est pas des vertus, c'est encore moins des richesses, évidemment, ce n'est pas, même pas la joie du ciel. La vraie récompense pour nous, c'est le Seigneur lui-même. Et non pas ses bienfaits. C'est Jésus que nous voulons vraiment chercher et obtenir. Vivre en Jésus, telle est notre aspiration, sans autre avantage extérieur ou intérieur, car nous savons que Jésus est tout ce que nous pouvons espérer et le seul qui peut nous combler véritablement. C'était l'objet de la consécration. Maintenant, deuxièmement, on peut essayer de chercher un peu plus, quelle est la spécificité de notre consécration à venir? La force de cette consécration, donc nous l'avons dit, réside dans le dépouillement entier de notre volonté propre et de toutes nos aspirations, puisqu'on acquiert la certitude que Dieu ne veut que notre bien, que nous sommes capables de gâcher les plus belles grâces, comme je vous le disais, que nous voulons donc les confier à Marie comme à une intendante très sûre et bonne qui saura bien les utiliser au mieux. Voilà ce que dit Père de Montfort dans Vraie Dévotion. Il s'ensuit de là, premièrement, que par cette consécration, on donne à Jésus-Christ de la manière la plus parfaite, puisque c'est par les mains de Marie, tout ce qu'on peut lui donner, et beaucoup plus que par les autres dévotions où on lui donne ou une partie de son temps, ou une partie de ses bonnes œuvres, ou une partie de ses satisfactions et mortifications. Ici, tout est donné et consacré, jusqu'au droit de disposer de ses biens intérieurs et les satisfactions qu'on gagne par ses bonnes œuvres de jour en jour. Ce qu'on ne fait pas même dans aucune religion, entendez, les ordres religieux. Quand il parle de religion, quand vous lisez ça, c'est toujours de dire un institut ou un ordre religieux. On donne à Dieu dans les religions les biens de fortune par le vœu de pauvreté, les biens du corps par le vœu de chasteté, la propre volonté par le vœu d'obéissance et quelquefois la liberté du corps par le vœu de clôture. Mais on ne lui donne pas la liberté ou le droit qu'on a de disposer de la valeur de ses bonnes œuvres. Et on ne se dépouille pas autant qu'on peut de ce que l'homme chrétien a de plus précieux, de plus cher, qui sont ses mérites et ses satisfactions. Et là, vous avez une vraie originalité de la consécration du Père de Montfort. Les mérites que nous acquérons sont légitimement notre propriété, puisqu'ils découlent automatiquement des œuvres bonnes que nous produisons, moyennant que nous vivions en état de grâce, dans un état de sainteté, dans la justification, hein, préalablement, grâce au Seigneur, à ses dons. C'est ce que explique un traité très important du Concile de Trente, s'appelle le De Justificatione, sur la justification. Donc ces mérites nous reviennent comme des bénéfices, si vous voulez, de notre vie spirituelle, dont nous pouvons jouir à notre aise, et puis qui nous donnent de grandir dans la grâce et puis d'arriver à la vie éternelle. Hein, sachant que si on n'avait pas la grâce de Dieu au départ pour le faire, on ne pourrait pas le faire. Vous l'avez bien compris. La consécration que nous allons vivre propose de nous dépouiller même de ses mérites et de les remettre au Seigneur pour qu'il en use comme il l'entend pour nous-mêmes ou pour le prochain. Oui, c'est même un acte de charité suprême, parce que ce dont je pourrais bénéficier moi-même, pour mon propre profit, disons, eh bien, j'accepte de m'en dépouiller pour que la Vierge Marie puisse en faire bénéficier qu'elle voudra, pour la gloire du Seigneur. C'est là une charité supérieure et héroïque qui ne souhaite rien garder pour soi et se livrer totalement à Dieu et au prochain par amour. Père de Montfort ajoute, deuxièmement, il s'ensuit qu'une personne qui s'est ainsi volontairement consacrée et sacrifiée à Jésus-Christ par Marie ne peut plus disposer de la valeur d'aucune de ses bonnes actions. Tout ce qu'il souffre, tout ce qu'il pense, dit et fait de bien appartient à Marie, afin qu'elle en dispose selon la volonté de son Fils et à sa plus grande gloire, sans cependant que cette dépendance préjudicie en aucune manière aux obligations de l'état où l'on est pour le présent et où on pourra être pour l'avenir. Il donne un exemple qui vous aide à comprendre. Par exemple, aux obligations d'un prêtre qui, par office ou autrement, doit appliquer la valeur satisfactoire et impétratoire de la Sainte Messe à un particulier. Vous voyez, le prêtre ne peut pas se dépouiller de ça parce que ça fait partie de son ministère. Donc le père de Montfort est prudent, on voit bien. Car on ne fait cette offrande que selon l'ordre de Dieu et les devoirs de son état. Voilà. Mais vous voyez, l'idée c'est que tous les mérites, tous nos bénéfices spirituels, on donne tout au Seigneur. On ne garde rien pour soi. Un dépouillement total. La consécration, donc, est à proprement parler une consécration à Jésus-Christ comme fin dernière de toutes nos dévotions et offrandes, nous l'avons dit. Elle est aussi à Notre-Dame comme fin intermédiaire, nous assurant de ne pas nous tromper de chemin et de ne pas compter sur nos propres forces pour arriver au bout, au but, pardon, et au bout aussi d'ailleurs. Voilà. Et donc, vous voyez, on donne tout au Seigneur par la Sainte Vierge, parce qu'ils sauront mieux que nous faire usage de nos propres mérites et nous conduire aussi sur le chemin du dépouillement et de la vraie charité. Il s'ensuit, Père de Montfort, qu'on se consacre tout ensemble à la Très Sainte Vierge et à Jésus-Christ. À la Très Sainte Vierge comme au moyen parfait que Jésus-Christ a choisi pour s'unir à nous et nous à lui, et à notre Seigneur comme à notre dernière fin auquel nous devons tout ce que nous sommes, comme à notre Rédempteur et à notre Dieu. Troisièmement, dans cette consécration, la persévérance et le renouvellement de la consécration. La consécration à Jésus vivant en Marie ne se termine pas, vous l'aviez deviné, à la fin des 33 jours et dans l'acte de consécration lui-même. C'est-à-dire, c'est bien plutôt qu'un début. C'est avant tout, je vous le redis, un esprit intérieur à maintenir et faire grandir pour en vivre au quotidien dans la persévérance. Concrètement, il s'agit de redire chaque jour au moins la partie de la consécration qui commence par « Je vous choisis aujourd'hui ou Marie en présence de toute la cour céleste ». Dans certains endroits, on dit « Nous vous choisissons ». Vous comprenez que c'est une aberration du point de vue du père de Montfort. Enfin, bref, je ferme la parenthèse. On ne peut pas dire « nous vous choisissons », c'est « je vous choisis ». Je ne peux pas m'engager pour le voisin, vu l'esprit de la consécration. Je ferme la parenthèse. Chaque année, il convient de reprendre les 33 jours, bon courage, pour revivifier notre engagement et approfondir son esprit. Il y en a qui pensaient qu'ils allaient être débarrassés pour toujours, mais non, il faut les reprendre ces 33 jours. Voilà. Mais vous pouvez les reprendre de manière allégée, pas obligé de tout refaire. Chaque année, par exemple, vous pouvez dire « Tiens, cette année, les 33 jours, je vais lire tranquillement pendant mes 33 jours tout le traité de la vraie dévotion. » Vous voyez ? Ou vous dire « Tiens, cette année, je vais lire l'amour de la sagesse éternelle, tranquillement, pendant les 33 jours. » Ça, c'est à dose homéopathique. Voilà, etc. Faites votre sauce, et puis avec les textes de l'imitation, les textes de l'écriture, vous voyez ? N'hésitez pas, c'est très libre. Je veux dire, moi je vous propose un schéma, mais ne soyez pas prisonnier non plus du schéma. Comprenez, ce schéma, il est pour vous aider à entrer dans la consécration. Mais ce qui compte, c'est d'entretenir ce feu intérieur, d'entretenir cet esprit intérieur. Donc ça, c'est un outil, un manuel. Alors utilisez-le comme un outil et faites votre sauce pour les 33 jours. Voilà. Mais ce n'est pas interdit de le faire en dehors des 33 jours, hein, chaque année. Mais chaque année, normalement, on renouvelle à la même date. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Au quotidien, donc, l'esclave de Jésus vivant en Marie, comme signe souvent le saint, s'efforce de vivre en présence de Notre-Dame dans tous les aspects de sa vie, de conformer ses pensées, ses paroles et ses actes à la Sainte Vierge, et de se mettre à son école pour vivre entièrement par et pour Jésus. On rejoint en cela la spiritualité de Nazareth, quelque part si chère au père de Foucault. Je vous cite le secret de Marie. « Ce n'est pas assez, dit Saint-Louis-Marie, de s'être donné une fois à Marie en qualité d'esclave. Ce n'est pas même assez de le faire tous les mois et toutes les semaines. Ce serait une dévotion toute passagère. Elle n'élèverait pas l'âme à la perfection où elle est capable de l'élever. Il n'y a pas beaucoup de difficultés à s'enrôler dans une confrérie, à embrasser cette dévotion, à dire quelques prières vocales tous les jours, comme elle prescrit. Mais la grande difficulté est d'entrer dans l'esprit de cette dévotion, qui est de rendre une âme intérieurement dépendante et esclave de la très sainte Vierge et de Jésus par elle. J'ai trouvé beaucoup de personnes qui, avec une ardeur admirable, se sont mises sous leur saint esclavage à l'extérieur, mais j'en ai bien rarement trouvé qui en ait pris l'esprit et encore moins qui y ait persévéré. Il ne faut pas se décourager. C'est sur les années que ça se fait. J'ai eu quelques réflexions là, cette semaine d'une ou l'autre personne qui me disait « Ouf, c'est trop dur, il y a trop de choses, etc. » Oui, bien sûr, mais ce n'est pas grave. Il ne faut pas croire qu'on aura tout compris là, au bout de 33 jours d'exercice spirituel de cette dévotion et de cet état d'esprit, vous voyez ? Ou alors ce sera un vrai miracle. Et on découvre toujours, moi je vous dis, je l'ai fait il y a 32 ans, je découvre toujours, et en vous l'expliquant, je m'émerveille encore de découvrir des choses, vous voyez, on entre peu à peu. Et ce qui est beau, c'est que le Seigneur donne à chacun selon ce que chacun peut porter, selon le progrès spirituel de chacun. Donc ça ne sert à rien de se comparer, de tout ça, laissez tomber ça. Mais prenez ce dont vous avez besoin, et chaque année, vous voyez, avec le manuel, ou même entre les deux, hein, vous pouvez continuer à approfondir, à goûter, à l'épuiser, les choses qui vont vous entretenir, cette flamme, et puis vous donner peu à peu d'approfondir, peut-être même à votre insu, parce que vous découvrirez dans quelques mois, quelques années, finalement, ah oui, ben, il y a des choses que je comprends mieux, mais en fait, ça s'est fait un peu tout seul, vous voyez, la Sainte Vierge qui vous éduque. Donc, laissez faire, soyez pas trop impatient. Dieu est patient. Voilà. Attendez pas trop quand même, hein, parce qu'il faut quand même avancer. Corunum et anima una, disent les actes des apôtres. Ils étaient, les chrétiens, un seul cœur et une seule âme. Il s'agit par la consécration de vivre donc avec Marie et en Marie pour ne faire plus qu'un seul cœur et une seule âme avec elle. Au commencement, nous y pensons souvent, il faut essayer de s'entraîner pour créer une sorte d'habitus, une union vertueuse avec Notre-Dame afin de nous laisser modeler et conduire par elle, façonner par le moule divin. Peu à peu, notre consécration pourra devenir une seconde nature, mais il faudra du temps pour ça, où la Sainte Vierge agira même à notre insu, de sorte que nous ne puissions pas gâcher son travail de grâce par notre orgueil. Cette dévotion, fidèlement pratiquée, Père de Montfort, produit une infinité d'effets dans l'âme. Mais le principal don que les âmes possèdent, c'est d'établir ici-bas la vie de Marie dans une âme, en sorte que ce n'est plus l'âme qui vit, mais Marie en elle, où l'âme de Marie devient son âme, pour ainsi dire. Or, quand par une grâce ineffable, mais véritable, la divine Marie est reine dans une âme, quelle merveille n'y fait-elle point ? Comme elle est l'ouvrière des grandes merveilles, particulièrement à l'intérieur, elle y travaille en secret, à l'insu même de l'âme, qui par sa connaissance détruirait la beauté de ses ouvrages. conclusion. Je vous encourage à lire déjà l'introduction à la... Ça fait deux pages, hein, même pas, une page et demie, à la consécration. Déjà, pour vous en imprégner, j'explique deux, trois choses, puis je cite le père de Montfort. Il dit comment faire la consécration dans son esprit. Et il encourage aussi à se confesser avant, pour être dans les dispositions optimales, disons, pour faire cette consécration. Et puis, je vous encourage aussi à lire les suites à donner à la consécration. Après, dans le livre, il y a le texte de la consécration. Et après, vous avez deux pages là, et dire « et ensuite », c'est marqué. Alors lisez ça, ça vous donne quelques pistes concrètes. Je vous en ai déjà parlé un peu. C'est aux pages 290-292. Cette consécration, vous l'avez compris, ce n'est pas une formule magique. Elle nous engage dans un processus volontaire d'offrande de soi pour mener les promesses de notre baptême à leur accomplissement de sainteté. Nous n'avons pas été choisis, mes amis, oh, écoutez ça, nous n'avons pas été choisis parce que nous en aurions été dignes. Combien m'ont dit, mais moi je ne suis pas digne, je arrive pas, je suis nul, je suis moche, je ne sais pas quoi. On s'en fiche. On ne fait pas la consécration, c'est pas la Légion d'honneur la consécration. Non, voilà, ben non, vous me direz, bon, c'est tout à fait. Mais on n'a pas été choisis parce que nous en aurions été dignes. Par contre, nous deviendrons peu à peu dignes de ce choix par la grâce du Seigneur, dans la mesure où nous vivrons intensément cette grâce avec fidélité et aussi une profonde reconnaissance, une profonde action de grâce. La consécration n'est pas un aboutissement, c'est un tremplin vers le ciel et un extraordinaire moyen de progrès spirituel si nous la prenons au sérieux en continuant de la mettre en œuvre au fil des journées et des années. Quand vous aurez suffisamment goûté les bienfaits et la grâce qui vous est faite d'appartenir tout entier à Jésus-Christ par les mains de Marie, mes amis, ayez la charité de partager ce secret à vos frères et sœurs, pour que nous soyons de plus en plus nombreux à le vivre et formions une armée rangée en bataille dans le combat contre le démon et ses suppôts. C'est une armée pacifique, mais redoutable, terrible au diable, car formée de petites âmes qui ne veulent que s'abaisser dans l'humilité et la charité pour mieux rejoindre dans son offrande l'humble et immaculée Vierge de Nazareth, la Mère de Dieu. Et je conclue avec le Père de Montfort comme il se doit, dans le secret de Marie. Âme prédestinée, si vous cultivez ainsi votre arbre de vie nouvellement planté par le Saint-Esprit en votre âme, je vous assure qu'en peu de temps, il croîtra si haut que les oiseaux du ciel y habiteront, et il deviendra si parfait qu'enfin il donnera son fruit d'honneur et de grâce en son temps, c'est-à-dire l'aimable et l'adorable Jésus qui a toujours été et qui sera l'unique fruit de Marie. Heureuse une âme en qui Marie, l'arbre de vie, est planté. Plus heureuse celle en qui elle est accrue et fleurie. Très heureuse celle en qui elle porte son fruit, mais la plus heureuse de toutes est celle qui goûte et conserve son fruit jusqu'à la mort et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il, qui tenet teneat. Pour cette semaine, concrètement, c'est plus long un peu. Encore que je vous dis, ça dépend des jours. J'ai vu le sixième jour, par exemple, est assez long, parce qu'on lit tout la lettre circulaire aux amis de la Croix. Vous pouvez ruser. Moi, j'ai déjà anticipé un peu pour demain, par exemple, en lisant le « Me suis avancé dans l'amour de la sagesse éternelle ». Vous voyez, non, mais vous pouvez ruser, c'est pas grave. Mais si vous voyez que ça va être plus long, le lendemain, vous voyez, parce que j'ai essayé de doser un peu, mais c'est pas toujours facile pour que c'est aussi un peu de sens. Donc voilà, donc on suit un peu Jésus dans ses mystères cette semaine, vous l'avez compris. Donc Jésus, Verbe éternel, le Verbe incarné, Jésus, la douceur, ouais, la douceur du Seigneur. Qu'est-ce que c'est beau ces passages du Père de Montfort sur la douceur du Seigneur. Bon bref, il y a une journée là-dessus, après il y a évidemment on parle de la croix, puis le dernier jour c'est la résurrection du Seigneur. Donc aujourd'hui, cette semaine, évidemment il y a de longs passages de l'Évangile, c'est quasiment toute la fin de Saint Jean, du chapitre 14 jusqu'à la fin on lit tout. 13, peut-être bien, je ne sais plus. Enfin, vous verrez. Voilà, on lit tout pratiquement, donc vous voyez, c'est assez long. On lit, il y a des jours, on lit la Passion tout entière, donc ça fait, voilà, Matthieu un jour, Saint Jean un autre jour, voilà, donc ça fait, il y a de la lecture, quoi. Ensuite, on va lire une bonne partie du traité de l'amour de la sagesse éternelle. Je vous avertis quand même que c'est moins long les passages que ce qu'on a lu cette semaine, ceux qui ont fait la version longue, hein. Que le traité de la vraie dévotion, c'est un peu long certains jours. Là, l'amour de la sagesse, c'est un peu moins long, enfin, selon les jours, plus ou moins, mais c'est quand même sensiblement moins long. Mais par contre, vous avez tous les autres textes en plus. Et puis les passages, en plus des limitations, sont en général assez longs aussi. Donc, voilà. Et puis, vous avez des prières un peu diverses cette semaine. Soyez attentifs, c'est l'habitude, mais il y a des prières qu'on n'a pas faites jusqu'à présent. Il y a les litanies du Saint-Nom de Jésus qu'on va faire là. Il y a les litanies du Sacré-Cœur, il y a des prières du Père de Montfort, etc. Donc, ce n'est pas tous les jours les mêmes prières. Donc, faites attention si vous avez l'habitude d'un peu machinal faire les mêmes prières. Regardez, parce qu'il y a des jours, il y a des variantes selon les jours. Voilà. Et puis, les petites méditations. Donc, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez, bien sûr, si vous avez fait la version longue jusqu'à présent. Et si vous dites cette semaine c'est compliqué, j'aurai pas le temps de faire, c'est pas grave, faites la version brève. Et puis quand vous aurez un moment, vous lirez le reste. Soyez souple. C'est en fonction aussi de ce que vous pouvez faire. C'est bien pour ça qu'il y a une version brève. La version brève, vous l'avez compris, elle donne un peu la substantifique moelle, le cœur un peu de la journée. Voilà, mais en résumé, quoi, en synthèse. Vous avez des questions peut-être? Tout est clair ici. C'est clair. J'ai pas entendu, pardon. Oui. Alors, ah oui, merci, Daniel, de me poser cette question. Je vous avais dit de me poser, mais je vous remercie. Oui, parce qu'en théorie, si vous avez bien calculé, le vrai jour, c'est le 8, hein, normalement. Mais comme voilà, on anticipait un peu avec, voilà, à cause des étudiants, donc on a fait la procession. Donc c'est après les premières vêtes, donc ce sera bien le 8. En fait, cette année, le 7 et le 8 quand même. Parce que, que vous savez que dans liturgie, en matière liturgique, en fait, surtout les dimanches, les solennités en plus, là, ça commence aux premières vêtes de la veille. Donc on sera déjà pour l'Immaculée Conception. Donc sur votre... Quand vous allez... Alors je vous dis... Ah ben ça, il faut que je vous dise ça aussi. Vous allez recevoir un beau papier, tous ceux qui font la consécration... avec donc tout le texte de la consécration, donc on va le distribuer au moment de la consécration, donc vous pourrez le lire, vous n'avez pas besoin d'apporter votre livre, même si vous ne l'avez pas, on va le lire dessus. Et puis il y a des petits points à un moment donné, moi, voilà, vous dites votre prénom, hein, Philippe Marie, pêcheur infidèle, je m'engage, etc. Et puis à la fin vous pourrez le signer, parce que le Père de Montfort demande de signer, puis mettre la date, mais mettez le 8 décembre, hein, c'est pas un problème, mettez le 8 décembre, c'est le vrai jour, c'est pas... Et puis la date et le lieu, voilà. Donc chacun aura son certificat. Prendre un crayon en talon pour remplir sur place après, c'est pas très grave dans les limites. Voilà. Et donc c'est bien le 7 au soir. Alors ce qui suppose que de la journée, de le faire le matin, ce qui concerne le dernier jour, le 7e jour, il faut le faire dans la journée du jeudi avant de, si possible, avant la procession, quoi. Oui. Pardon, j'entends rien là. Si, faites-la. Faites-la, vous. Non, mais vous la faites et puis vous continuerez après, vous terminerez tranquillement. On se parle. Profiter du week-end pour rattraper. Mais non, mais c'est pas grave. Vous voyez, c'est un état d'esprit. Encore une fois, c'est pas quelque chose, on fait pas du pharisaïsme, s'il vous plaît. C'est vraiment un état d'esprit. C'est pas dire j'ai mon quota, j'ai fait tout mes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça l'idée. Les exercices, c'est pour vous aider à entrer dans l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous n'avez pas fini parce que c'était un peu long, c'est pas grave. Vous faites la version brève et puis vous reprenez après. Et bien voilà, même quand on a fini, il faut le digérer. Et je vous dis, on le digère que sur les années, sur des années. Donc ne vous inquiétez pas. Au début, ça fait beaucoup parce qu'on reçoit beaucoup, mais on le digère sur les années à venir. Donc ne vous inquiétez pas. Le Seigneur vous donnera les grâces. Donc voilà, c'est un état d'esprit, encore une fois, plus que des choses à faire. Ceci dit, Père de Montfort encourage quand même, évidemment, après, vous verrez, il y a les choses pratiques. Vous l'avez vu cette semaine dans le traité de la vraie dévotion, ceux qui l'ont lu. Dans le secret de Marie, je ne sais plus s'il y a une partie aussi là-dessus. Donc il y a les pratiques extérieures de la dévotion qu'il ne faut pas négliger pour autant, parce que c'est vrai que si c'est que intellectuel et cérébral, c'est bien, c'est avec mon cœur, c'est bien. Mais on est humain, on a besoin, il faut être concret. Donc si vous ne dites pas le chapelet, je vous l'ai déjà expliqué, dites une dizaine et puis avancez avec ça. Mais voyez, il y a des choses aussi concrètes à faire. Hein, dire le Magnificat tous les jours, par exemple, des choses comme ça. Après la messe, dites votre Magnificat quand vous avez communié. Le Père de Montfort, il dit toujours, dites le Magnificat à la fin de la messe, spécialement pour remercier le Seigneur. Voilà. Vous voyez, des choses comme ça, très simples, très concrètes. Dire l'acte de consécration, bref, chaque matin. Oui, après la communion, mais parfois, après la messe, peu importe. La consécration se fera au milieu de la messe. À l'offertoire. Non, le 7. Le 7 au soir. Mais si par hasard, je dis aussi pour les gens qui écoutent aussi éventuellement en replay, si vous ne pouvez pas être là le 7, ce n'est pas grave. La consécration, c'est un acte privé, personnel. Vous n'avez pas besoin de prêtre, vous n'avez pas besoin de personne pour faire vos consécrations. Moi, je les fais tout seul. Voilà. Donc, c'est un acte complètement personnel. Donc vous n'avez pas besoin de prêtre ni quoi que ce soit, parce que c'est bien de se confesser, c'est bien de communier dans la journée. Parce que ça, voilà, ça fait partie quand même des choses. Voilà. Mais faites-le voilà, tout seul si vous n'avez pas d'autres possibilités. Il n'y a pas d'importance. Le 7, donc la messe, la procession est à 18h45 et la messe environ vers 19h45. Voilà, on va faire la version brève. Je vous propose on ne va pas relire la vraie dévotion 61 puisque je l'ai lu au début.